Un excellent sabbat à tout le monde. L'apôtre Paul parle de son ministère et il parle de sa responsabilité d'annoncer le royaume de Dieu qui sera établi sur la terre. Il en parle dans Colossiens, le premier chapitre. Reportez-vous à ce passage, s'il vous plaît. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Et on va lire le verset 25 et 26, et ça va m'amener au thème du sermon d'aujourd'hui. Colossiens 1, verset 25 et 26. En parlant de l'Église, dont il a été fait ministre, Paul dit ceci, « C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée. » Alors, voyez-vous, c'est toujours Dieu qui désigne les ministres ou l'autorité dans son Église, ou c'est les serviteurs qui doivent être appelés à servir les autres. C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et c'est ce que les ministres de Dieu doivent faire. On ne doit rien ajouter, rien enlever, mais on doit s'en tenir à ce que la Bible dit réellement, dans ce que nous comprenons. Et quand il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, on dit qu'on ne comprend pas et qu'on demande à Dieu de nous montrer en temps et lieu. Et regardez, il définit après ça qu'est-ce que c'est la parole de Dieu par rapport à l'ensemble des êtres humains. Alors, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, vous avez bien lu, et c'est important qu'on le voit. La compréhension de l'Évangile ou de la Bible, elle est scellée. Elle est cachée pour l'ensemble de l'humanité. Ça a toujours été un mystère. Depuis que Dieu a fermé la porte du Jardin d'Éden à nos premiers parents qui avaient choisi de faire les choses à leur façon, Dieu leur a dit, « Je vous donne un certain nombre d'années pour faire vos expériences humaines de gouvernement, de système d'éducation, de religion et tout ça. Je vous donne un certain nombre de temps et vous ne comprendrez plus ce qu'est le plan de Dieu. » Et vous allez perdre contact avec le vrai Dieu. Alors, c'est un mystère. C'est un mystère pour les êtres humains. Et ce mystère-là a été caché par Dieu. C'est-à-dire que les choses ne sont pas comprises par l'homme. Et l'homme s'est fabriqué, depuis ce temps-là, toutes sortes de religions comme il a voulu. Des religions parfois bizarres, d'autres qui peuvent même ressembler, dans certains cas, à la vérité. Ou être très proche de la vérité, mais sans être vraiment ça. Ce sont là tous les pièges de celui qui est le séducteur de toute la terre. La Bible dit clairement dans Apocalypse que Satan a séduit toute la terre, pas seulement quelques personnes, toute la terre. Et c'est pour ça que la compréhension des choses de Dieu, elle est cachée par Dieu. Il la laisse comme ça pour l'instant. Et pour l'instant, Dieu appelle seulement un petit troupeau, quelques personnes à travers le monde, pour préparer une équipe qui va enseigner au monde entier, aux survivants de la Troisième Guerre mondiale, très bientôt, après que le Christ sera revenu. Mais pour le reste de l'humanité, ça reste un mystère, même si beaucoup de gens en parlent, même si beaucoup de gens se définissent comme des chrétiens, comme étant des disciples de Christ, mais quand on regarde d'un peu plus proche, on voit qu'ils ne sont pas vraiment des disciples de Christ. Ils sont sincères. Mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu parce qu'ils n'observent pas les choses que le Christ a demandé d'observer. Ils n'observent même pas le sabbat, ni ses fêtes, ni rien. Quand Dieu appelle quelqu'un à l'Église, il lui donne de comprendre certaines choses. Et quand la personne met en pratique ces choses-là, Dieu lui donne de comprendre d'autres choses. Il ouvre la révélation de ce mystère qui était caché pour l'ensemble de l'humanité et qui l'est encore, et qu'il sera jusqu'au retour du Christ. D'ailleurs, c'est frappant, allez dans Matthieu chapitre 13. Je vais vous montrer un passage qui m'a réellement estomaqué une fois que je l'ai eu compris vraiment. Parce que moi, on m'avait toujours enseigné que lorsque le Christ donnait des paraboles, lorsqu'il expliquait avec des images, vous savez, là, il racontait comme une histoire pour expliquer un point. Moi, j'étais convaincu, comme on m'avait enseigné, que c'était pour que les gens comprennent mieux. Et j'avais pris ça pour acquis. Mais regardez ici, Matthieu, chapitre 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole avec toutes les images que tu utilises? » Alors nous, on avait appris que c'était pour que les gens comprennent. Et regardez, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à ses disciples, aux quelques-uns qu'il appelait à ce moment-là, il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. » À vous autres, les disciples qui étaient appelés au point de départ, le Christ dit, à vous autres, ça a été donné de comprendre ces choses-là. Et que cela ne leur a pas été donné. Je vous ai dit tantôt que Dieu avait mis sa main et avait caché ces choses-là depuis le début et qu'il le révèle seulement maintenant aux quelques-uns qu'il appelle. Pas parce que ces gens-là sont meilleurs, absolument pas. Absolument pas. Même, ils peuvent être pires dans certains cas que d'autres qui ne sont pas appelés, pour ainsi dire. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde qui pardonne la vie passée et qui nous aide à vivre en nouveauté de vie lorsqu'on veut suivre ses lois. On voit ici que le Christ parlait en parabole pour ne pas être compris. C'est ce qu'il mentionne ici. Le titre de mon message, « L'appel de Dieu est précieux ». L'appel de Dieu est précieux. Quand on réalise que le fait de pouvoir comprendre ces choses-là nous arrive, c'est que ça nous est donné. On ne l'a pas mérité. On n'était pas mieux que les autres, mais Dieu nous l'a donné et il veut voir ce qu'on fait avec. Et Paul le confirme, cette chose-là, c'est intéressant qu'on le voit également. Paul le confirme dans 1 Corinthiens 2. Je pense que ça vaut la peine qu'on passe à ce verset-là. 1 Corinthiens chapitre 2. Paul confirme que sans l'Esprit de Dieu, sa puissance, qu'il donne à ceux qui lui obéissent, les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Le mystère reste entier. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 9. Regardez ce que Paul dit encore. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. » On revient encore à ça. Cette sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et cachée pour l'ensemble de l'humanité. Alors, Paul, il dit, « Nous, dans l'Église, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle ou de ce monde n'a connue. » Non, parce qu'elle est cachée, cette sagesse-là, cette connaissance-là. « Car si les chefs de ce monde l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Comprenez-vous? Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur s'ils avaient su que c'était vraiment le Seigneur, si le mystère n'avait pas resté épais, inconnu. Verset 9. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil humain n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Ça ne peut pas venir de nous de comprendre ces choses-là. Absolument pas. Si vous commencez à les comprendre, c'est que Dieu commence à vous les révéler. Et s'il commence à vous les révéler, comme ça a été le cas pour moi il y a plusieurs années, là, j'ai commencé à réaliser que j'étais responsable de ce qu'il me révélait, de ce que j'allais faire avec ce qu'il me montrait. Et là, je pouvais commencer une nouvelle vie, une vie spirituelle pour aller vers Dieu. Il dit donc, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées, et regardez, pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, il n'a pas dit qu'il a préparé ça pour tout le monde. Non? Il a préparé ces choses-là, la connaissance de ce mystère-là, pour ceux qui l'aiment. C'est qui ceux qui l'aiment? Ceux qui disent, je connais le Seigneur, je connais le Seigneur, je connais le Seigneur? Non. La Bible dit très bien qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu. Vous irez voir dans 1 Jean 5, verset 3, on ne s'y reportera pas, mais 1 Jean 5, verset 3, ça ne peut pas être plus clair. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu peut penser qu'il plaît à Dieu. Il peut penser qu'il est chrétien, qu'il suit le Christ, qu'il lui observait les commandements de Dieu. Mais l'homme ou la personne qui fait ça, malgré sa sincérité, est encore sous le mystère qui ne lui est pas révélé. Elle a encore à découvrir des choses extraordinaires. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. On n'est pas parfait là-dedans, mais il faut le faire et le faire graduellement. Et regardez, il continue plus loin en disant, versets 10 et 11, « Dieu nous les a révélés, à nous qui sommes appelés à sa petite Église. Dieu nous les a révélées, ces choses-là, les mystères de Dieu. Comment? Par son Esprit, c'est-à-dire par sa puissance. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il précise après, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » J'ai donné un message dernièrement là-dessus pour expliquer que Dieu a mis dans tous les êtres humains l'esprit humain, l'intelligence humaine. Et les animaux n'ont pas ça. Seulement les êtres humains ont ça dans la création physique. Et c'est ce qui nous permet d'étudier, de réfléchir, de rire, d'apprécier les choses, de comprendre, de choisir, de décider. Voyez-vous? Ça, c'est l'esprit dans l'homme. Et l'esprit dans l'homme permet de bâtir des fusées, des avions, faire des jardins, bâtir des maisons, faire des choses comme ça. Ça, c'est l'esprit dans l'homme qui donne ces capacités-là. Mais il dit, au niveau humain, l'esprit humain peut nous aider à comprendre des choses à ce niveau-là. Mais sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, les mystères cachés, si ce n'est l'esprit de Dieu et à qui Dieu veut bien le révéler. Voyez-vous comment tout ça se tient de façon très, très serrée puis très, très encourageante en même temps. Il y a un constat qu'on doit faire, c'est que l'ensemble de l'humanité, malheureusement, pour l'instant, parce que ça va changer, malheureusement, ne connaît pas le vrai Dieu de la Bible. On peut parler beaucoup de Dieu, mais ne connaît pas le vrai Dieu de la Bible. Et je reviens à ça, et n'aime pas vraiment le vrai Dieu de la Bible, parce qu'il n'observe pas ses lois. Il n'observe pas le sabbat, pour la vaste majorité, observe parfois un autre jour, qu'il croit être celui de Dieu, mais qui n'est pas celui de Dieu, parce que ça n'a jamais changé. Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sa loi n'a jamais changé. Le Christ est venu en disant, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir, pour la magnifier. » Et il a lui-même observé le sabbat, il a lui-même observé les fêtes de Dieu, les fêtes de son Père, qui décrivent son plan. Alors, l'humanité n'aime pas vraiment Dieu et ne connaît pas vraiment Dieu dans son ensemble. Maintenant, le Christ révèle le mystère caché à qui? Et c'est le Christ qui le révèle, lui qui est le chef de l'Église. Il le révèle à ceux que le Père attire au Christ. C'est le Père qui prend l'initiative de dire « telle femme, tel homme, telle jeune personne, je vais l'attirer au Christ. Je vais lui donner un peu de ma puissance pour que cette personne-là commence à comprendre mes lois, mes voies, et ait la chance de décider si elle les met en pratique ou non. Et si elle les met en pratique, Dieu donne davantage de son esprit et révèle d'autres choses. » Alors, c'est le Père qui attire au Christ, comme on voit dans Jean 6, 44. Vous pourrez aller voir, dans Jean 6, 44, c'est écrit, c'est le Christ qui parle, « Personne ne peut venir à moi. » C'est le Christ qui parle. « Personne ne peut devenir un vrai chrétien. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. » Alors, voyez-vous, c'est d'abord une décision du Père d'appeler quelqu'un à l'Église. Et là, le Père attire quelqu'un vers le Christ. Et le Christ travaille avec cette personne-là si cette personne-là se met à vivre selon ses voies. Et il ajoute à la fin du verset, « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il donne la perspective ici que ce à quoi il veut nous amener, c'est d'avoir un jour la vie éternelle. Parce que nous sommes des êtres limités dans le temps, des êtres mortels. Allez à Apocalypse 1. On va voir que le Christ révèle à ceux que Dieu attire à lui et qui se mettent en marche de mettre en pratique ses lois, le Christ révèle le mystère caché. Apocalypse 1, verset 1. Et le livre d'Apocalypse, qui a été très mal compris jusqu'à maintenant, commence à être davantage compris par les serviteurs de Dieu parce qu'on est rendu à l'époque, en plus, où ces choses-là se réalisent. Ce qui est annoncé ici, parce que le livre de l'Apocalypse concerne surtout les temps de la toute fin, juste avant le retour de Christ. Et regardez verset 1, Apocalypse 1. Qu'est-ce que ça dit? Révélation de Jésus-Christ. Révéler quelque chose, c'est quoi? C'est expliquer, c'est faire connaître. Et c'est qui fait connaître? C'est le Christ qui fait connaître. Il fait connaître à qui? À ceux que le Père a attirés vers lui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est le Père qui lui a donné cette révélation-là. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs, à ceux qui le servent en mettant en pratique ses lois au mieux, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est pour ça que je vous dis que le livre de l'Apocalypse concerne surtout le temps où nous sommes rendus, le temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Et le Christ révèle en ce moment à ses vrais serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Dieu l'a inspiré d'écrire ces choses-là. Alors, voyez-vous, l'Église de Dieu comprend ce qui se passe actuellement sur la scène mondiale, par exemple, la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Elle comprend où ça va mener. Elle savait même depuis des décennies, depuis des dizaines d'années, que ça allait venir. Je vous surprendrai peut-être pas les plus anciens ici, parce qu'il y en a qui sont ici depuis nombre d'années, du temps de M. Armstrong même. M. Armstrong, après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Allemagne était en ruine, M. Armstrong avait dit, l'Allemagne va se relever, la dernière résurrection de l'Empire romain va se produire en Europe, il y aura à un moment donné 10 nations ou groupes de nations qui vont donner leur autorité une dernière fois à un nouvel Hitler, à ce que la Bible appelle la bête. Et tout ça va se passer en Europe et l'Angleterre ne fera pas partie de ce groupe-là. M. Armstrong avait annoncé ça il y a des années, des années, des années. Et depuis des dizaines d'années, M. Meredith, qui a succédé à M. Armstrong sur la toute petite Église de Dieu, a continué de dire la même chose alors que ce n'était pas apparent du tout. Et maintenant, ça arrive. Pourquoi ça arrive? Je viens de vous le lire, là. Jésus-Christ révèle à ses vrais serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, ça nous est donné de pouvoir comprendre ça. Ça nous est donné de pouvoir comprendre, par exemple, les tendances de l'économie mondiale actuelle. Pas parce qu'on est des économistes ou des grands spécialistes de la finance ou quoi que ce soit, mais on est des serviteurs de Dieu. Non parfaits, mais qui veulent aller vers la perfection et qui demandons à Dieu de nous montrer à faire sa volonté. Et quand on veut faire sa volonté, Dieu nous révèle les choses qui viennent bientôt. Il nous donne de les comprendre. Et il va nous donner à mesure de savoir comment agir quand les choses vont empirer. Et elles vont empirer avant longtemps aussi. La tendance est nettement lancée. On avait vu dans les prophéties bibliques qu'il y aurait des bouleversements climatiques spéciaux. Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Quand vous voyez les bouleversements climatiques qui se produisent à la grandeur de la planète, des inondations sans précédent, des feux de forêt immenses, quand vous voyez la multiplication des problèmes dus à l'atteinte de l'agriculture, difficulté de produire de plus en plus, le Christ avait annoncé qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait de la violence en augmentation. Est-ce qu'on ne voit pas, même dans nos pays israélites, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en France, beaucoup de soulèvements populaires, beaucoup de meurtres, beaucoup de situations de violence qu'on ne voyait pas avant? C'est ce qu'on voit sous nos yeux. Pourquoi on peut faire le lien entre ça et la Bible? Parce que Dieu nous le dit. Dieu nous le révèle. Comme il nous révèle aussi comment vivre selon ses lois. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille, parce que le Christ avait déjà annoncé ces choses-là, Matthieu 24, le même Jésus-Christ qui est le révélateur ici. À ceux qui sont rendus au temps de la fin, le Christ avait annoncé dans Matthieu 24 les choses qui allaient arriver juste avant son retour. Et il répondait à ce moment-là à une question de ses disciples. Il avait dit à ses disciples qu'il allait retourner au ciel, mais qu'il allait un jour revenir sur la terre pour établir un gouvernement mondial. Et regardez ici le verset 3. Le Christ s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Il était intrigué, il voulait savoir quand ça allait arriver. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour sur la terre et de la fin du monde. Non pas que la planète va cesser d'exister, mais la fin de la société telle que nous la connaissons actuellement pour être remplacée par une société meilleure. Regardez à partir du verset 4. Le Christ répond, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, plus ça allait avancer dans le temps, plus il y aurait de fausses religions, plus il y aurait de faux prophètes qui allaient se présenter en disant, « Nous annonçons le Christ, nous connaissons sa parole, voici quoi faire, voici comment vivre, voici les lois de Dieu sont abolies maintenant. » Donnez votre cœur au Seigneur, aimez, mais sans définir qu'est-ce que c'est qu'aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est vrai, Mais la première règle d'amour, c'est d'observer les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique ses lois. On l'a vu tantôt. Et il y a deux grandes lois qui découlent de ça. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes, servir les autres. Alors, ça, il a dit, ça va arriver et ça va aller en augmentant. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit maintenant? Des guerres en augmentation et des bruits de guerre. Au moment où je vous parle, il y a une escalade entre l'OTAN, les pays de l'OTAN, et la Russie. Et l'Europe qui voit ça d'un œil inquiet parce qu'ils ont déjà goûté à la médecine russe à travers les autres guerres. Alors, il se fait une démonstration d'augmentation d'armes de toutes parts. Même le Canada, actuellement, envoie une série de soldats près de la Russie, justement, pour faire face à cette menace-là. C'était annoncé, on le savait, mais quelqu'un qui ne connaît pas les prophéties bibliques, à qui ce n'est pas révélé, il ne peut pas comprendre qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là. Il y a un lien. C'est l'histoire du monde qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et on n'a pas besoin d'avoir peur si on connaît le vrai Dieu, qui est notre protecteur, notre haute retraite, notre refuge, celui qui répond à nos besoins. Il faut le supplier. Il faut le supplier d'abord de faire sa volonté, de nous aider à faire sa volonté, puis ensuite de nous aider à passer à travers les épreuves. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et les famines s'étendent avec les feux de forêt, avec les sécheresses, avec les inondations. On a vu en France, même dernièrement, plusieurs vignobles qui ont été détruits par la grêle, non pas sur une petite échelle, mais à grande échelle. Alors, on voit ces choses-là se produire. Regardez le verset 11, allons plus loin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le Christ est revenu là-dessus. Il y aura des gens qui vont enseigner des erreurs monumentales et parfois des erreurs qui sont toutes proches de la vérité. Il y a des groupements, par exemple, qui observent le sabbat, mais qui disent que les fêtes sont abolies. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas appelés. Ils sont encore sous le mystère. Ils ne comprennent pas les choses. Mais quand on voit que Dieu nous dit d'observer les fêtes, parce que le Christ les a observées et parce qu'on voit qu'elles seront observées dans le monde à venir, on le voit dans Zacharie 14, quand Zacharie dit qu'après le retour de Christ, les nations qui ne monteront pas à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles vont recevoir des punitions de Dieu. C'est parce que la fête des tabernacles sera observée dans le monde à venir. Voyez-vous? Ça n'a jamais changé et ça ne changera pas. Parce que les fêtes de Dieu, ce sont les étapes de son plan. On verra ça plus tard dans d'autres prédications que vous aurez. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai que l'amour dans nos sociétés entre les gens, elle est froide. Elle est malheureusement très froide. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui a été appelé et qui tient bon, malgré ses faiblesses, malgré ses difficultés, malgré ses peurs, qui tient bon à demander à Dieu de faire sa volonté, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, aura la vie éternelle. Dieu va s'occuper de lui. Il dit après, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle du fait qu'il y aura bientôt un gouvernement mondial, un seul gouvernement mondial sur la face de la terre, sous la directive du Christ, avec ceux qui l'appellent maintenant et qui se qualifient pour servir avec lui les autres êtres humains après. Il dit, cette bonne nouvelle de ce monde nouveau qui vient, sous un gouvernement juste, le gouvernement de Dieu, sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'Église de Dieu, la petite Église de Dieu, elle est un peu partout sur la planète, à Internet, à la télévision, dans des conférences publiques et ainsi de suite, pour rendre le témoignage disponible, pas pour convertir les gens. Notre rôle, ce n'est pas de convertir les gens, c'est d'avertir les gens de ce qui vient. Et chez ceux qui entendent, certains choisissent de se mettre en marche pour obéir à Dieu. Et là, Dieu leur donne davantage de son Saint-Esprit. Et il les amène à faire partie du corps du Christ, de l'Église, dont le Christ est le chef. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. C'est ce que nous faisons. Et je vous ai déjà dit qu'au moment où je vous parle, c'est encore le cas, il y a seulement deux petits territoires sur la face de la terre où nous n'entrons pas avec la bonne nouvelle, entre autres la Corée du Nord. Alors, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ça veut dire qu'on avance pour servir de témoignage à toutes les nations. Voyez-vous, il a bien dit, pas pour convertir toutes les nations. Notre rôle, c'est pas de convertir les gens. Et quand Dieu nous appelle à l'Église, Notre rôle, ce n'est pas de convertir nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis qu'on connaît. Je l'ai fait, je ne vous le conseille pas. Mais quand on découvre la vérité, on est tellement content qu'on voudrait que les autres en profitent aussi. Et on a tendance à vouloir aller frapper aux portes quasiment ou dire à tout le monde ce qu'on a découvert en disant « ils vont comprendre, ils ne peuvent pas ne pas comprendre, c'est tellement beau ». Non, ça reste un mystère caché tant que Dieu n'a pas décidé d'appeler quelqu'un et d'ouvrir son esprit. Si moi je comprends, j'ai la responsabilité, moi, de vivre selon Dieu. Et si par mon exemple, quelqu'un vient me demander « qu'est-ce que c'est », là je dois lui répondre « pourquoi j'agis de telle façon ». Mais sans aller plus loin, sans lui donner 15 versets bibliques. Il dit « parce que bon, je crois au sabbat et pour moi c'est la journée que j'observe, point ». Si la personne vous voit partir tous les samedis pour aller à la sainte convocation, bon, vous dites « moi j'observe le sabbat ». Si elle veut savoir plus, elle demandera plus. Et là, vous donnerez un autre petit bout de réponse, mais sans aller trop loin pour pas non plus donner une indigestion à la personne. Et si elle est vraiment intéressée, elle va vraiment poser des questions que vous allez, à un moment donné, percevoir comme étant des questions réelles et non pas des questions pour faire des objections ou pour amener d'autres problèmes. Prêcher, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et regardez bien, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est pour ça que je vous dis qu'on est proche. Parce que la bonne nouvelle, elle est prêchée à grande échelle. Et les événements prophétiques annoncés s'accomplissent à une échelle plus importante maintenant. Et ils s'accélèrent. Revenez à Apocalypse 1. Apocalypse 1. Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre dans l'Église, dans la petite Église de Dieu, ces choses-là? C'est parce que le chef suprême de l'Église, le Christ, est celui qui révèle les choses à ses serviteurs, pour qu'on sache les choses qui viennent bientôt. Et regardez maintenant le verset 3, ça nous concerne, ça concerne le petit troupeau que Dieu appelle. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Quel temps? Le temps du retour du Christ. Et on voit ensuite dans les versets suivants que c'est exactement ça. Au temps de la fin, le livre, qui est encore mystérieux pour tous, devait être compris par le petit troupeau de Dieu, qui est lui rendu à l'intérieur de ces événements-là, qui est en train d'entrer à l'intérieur de ces événements-là. Pourquoi? Pour nous encourager. Ça nous encourage quand on sait ce que Dieu a dit, quand on voit que ça arrive. Et quand on voit les promesses que Dieu fait à ses serviteurs, c'est un encouragement. Et ça nous aide à garder les yeux sur le but. Ça nous aide à garder les yeux sur le but, même si on n'est pas nombreux, même si le reste de la planète pense différemment. Vous savez, ce n'est pas important ce que la planète pense en majorité. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine dans une autre région et selon la conversation, j'ai expliqué un point à la personne, je pense qu'il lui a donné beaucoup à réfléchir et qui fait toute une différence. J'ai dit, vous savez, monsieur, il y a énormément de personnes sur la Terre, des centaines de millions de personnes qui croient en Dieu. C'est vrai, hein? Centaines de millions qui croient en Dieu. Mais il y a très peu de gens qui croient Dieu. Il y a toute une différence. Si je crois Dieu, je crois ce qu'il me dit. Et si je crois ce qu'il me dit, je fais ce qu'il me dit, avec son aide. Sans ça, je crois en Dieu, mais je ne vais nulle part et je n'appartiens pas à Dieu non plus. Même si je pense sincèrement que je suis chrétien. Là, je ne vous donne pas des choses que moi je pense, je vous donne des choses bibliques qui sont là, qui sont prouvables n'importe quand et de plusieurs façons. Allez dans Luc 12. Parfois, certaines personnes nous demande si l'Église de Dieu, elle est nombreuse. Et je leur dis qu'elle est très peu nombreuse. C'est quelques mille personnes à travers le monde. Mais on a des églises un peu partout, sur tous les continents, mais on est en train d'annoncer l'Évangile au monde entier quand même. Dieu nous donne la force, il nous donne les moyens techniques pour être capable de le faire, avec une toute petite armée, pour être capable spirituellement d'annoncer l'Évangile. Et c'est pas nouveau, parce que le Christ a dit que son Église ne serait jamais grande. Son Église va être grande, vous savez quand? Après qu'il va être revenu. Parce que c'est là qu'il va enlever le mystère de devant les yeux de l'ensemble de l'humanité. Pour l'instant, le mystère reste épais, reste là. Et regardez le verset 32 de Luc 12. « Ne crains point, petit troupeau. » Il n'a pas dit « énorme église de millions de personnes. » Ne crains point, petit troupeau, il parle à son Église ici, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, de faire partie un jour de sa famille. Et regardez, pour nous encourager, je vous avais dit que Dieu révèle ces choses-là à ceux qui l'appellent et qui se mettent en marche pour lui obéir. Dieu les encourage de plusieurs façons. Regardez comment il nous encourage dans ce contexte-là. Allez juste un peu avant au verset 25. Verset 25. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Personne ne peut allonger sa vie d'un instant même. Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Parce que humainement, on est porté à s'inquiéter de plein de choses. C'est sûr, il faut s'occuper de nos choses, faire attention à nos finances, à nos dépenses, et ainsi de suite. C'est normal. Avoir soin de nos choses, ça c'est normal. Mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure concernant ces grandes choses qui viennent si on connaît le vrai Dieu. Il dit, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lys, les belles fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et c'est vrai, quand on regarde les fleurs des champs, c'est super. J'en ai vu encore cette semaine. J'ai pris le temps d'arrêter pour voir les asclépiades. Il y avait plein d'abeilles dedans. J'avais ma petite fille avec moi. Puis on regardait les abeilles. C'est superbe. Il y a un certain parfum aussi. C'est merveilleux. Alors, Dieu a donner cette beauté-là aux fleurs. Il dit, verset 28, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. » Bien sûr, comme je dis, il faut faire notre part, planifier des choses comme il faut. « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ne comptent pas du tout sur Dieu. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. » Et ailleurs, on dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » On ne peut pas dire « J'attends la vie éternelle » ou « J'attends que Dieu me bénisse, mais moi, je ne fais rien. » Non, il dit « Vivez selon mes lois. Marchez avec Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et après, c'est là qu'il dit « Ne crains rien, petit troupeau. » Il y a des circonstances difficiles qui viennent. « Ne crains rien, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Comprenez-vous pourquoi je vous donne le message aujourd'hui qui a pour titre « L'appel de Dieu est précieux ». Je pense que ça nous aide à voir la dimension de cet appel-là. C'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Ces révélations ont une grande valeur. Et le Christ va continuer à vous révéler des choses, à vous donner aussi la force de vaincre vos faiblesses, de passer à travers les difficultés, des fois pas immédiatement, mais en temps et lieu, de bonne façon, si vous cherchez à faire la volonté de Dieu. Quand on vient à l'Église, et je m'en rappelle, c'est tellement enthousiasmant quand on découvre les choses qui viennent, quand on découvre le vrai Dieu, que c'est un être réel et qui nous aime au point qu'il a mis un prix incroyable, qu'il a donné même la vie de son Fils pour que nous soyons lavés de notre vie passée lorsqu'on passe par les eaux du baptême et que ce soit complètement effacé et qu'ensuite il mette son esprit en nous par l'imposition des mains d'un ministre. C'est tellement enthousiasmant. Et quand on découvre que les prophéties qui ont été annoncées il y a des milliers d'années se sont réalisées, comme on voit pour l'Angleterre et les États-Unis, dans les textes, on voit que Dieu avait dit aux descendants d'Abraham, Éphraïm et Manassé, l'Angleterre et les États-Unis, qu'ils domineraient la planète pendant longtemps. Ce qui a commencé dans les années 1800, quand le Commonwealth s'est développé, et qui est venu une époque où l'Angleterre avait des possessions tout autour de la planète. Ce tout petit pays insulaire dominait littéralement le monde. Regardez dans quel état ils sont rendus, parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Et l'autre prophétie qui s'est réalisée, c'est concernant Manassé, les États-Unis, qui devaient être une nation dominante, et ça a été leur tour après que l'Angleterre a eu baissé. Ces choses-là, c'est pas vous qui les avez faites, ni moi. Elles ont été écrites longtemps d'avance, mais nous, on les a vues se réaliser dans le temps, lorsqu'on lit l'histoire. Enthousiasmant. Alors, c'est enthousiasmant de voir la beauté de l'appel quand on arrive à l'Église. Je m'en rappelle encore cette fraîcheur de découverte et d'enthousiasme. Mais même si on est dans l'Église depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne faut pas perdre de vue le précieux de l'appel. Parce qu'avec le temps, la nature humaine a tendance à prendre les choses pour acquis, vous savez, alors qu'on ne doit pas faire ça. Ça reste aussi précieux, et surtout lorsqu'on approche de la fin des choses. lorsqu'on approche de la fin des choses. Même les plus anciens dans l'Église, comme nous, doivent continuer d'apprécier, de remercier Dieu, de chérir la vérité, de reviser cette vérité-là par notre étude à chaque jour pour la posséder, pour la solidifier, pour solidifier nos croyances. Allez à la toute fin de la Bible, à la fin de l'histoire, chapitre 22 d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Dernière page de toute la Bible. Et regardez par quoi Dieu inspire l'apôtre Jean de terminer le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22 et le verset 7. « Et voici, je viens bientôt. » C'est le Christ qui parle. « Voici, je viens bientôt. « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux celui qui garde, qui les chérit, qui les étudie, qui les lit, qui les relit, qui regarde l'actualité se développer dans les médias par rapport à ce qui est écrit ici et qui renforce de cette façon-là sa foi. Regardez le verset 18 et 20, même chapitre. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera. » Voyez-vous qu'on n'a pas le droit d'altérer les textes. On n'a pas le droit de dire que la loi n'existe plus. On n'a pas le droit de dire que les fêtes de Dieu n'existent plus. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Il n'aura pas sa part. Et de la ville sainte décrite dans ce livre. Voyez-vous, il termine toute la Bible en ramenant les choses au fait que les serviteurs de Dieu ont accès à la prophétie. Ils ne doivent pas la modifier, ils doivent l'enseigner. Nous, c'est notre rôle, telle qu'elle est dans ce que nous comprenons maintenant. Et s'il y a d'autres choses à comprendre, Dieu va nous donner de comprendre. Alors, comprenez-vous que ça ne peut pas être toutes les églises qui parlent du Christ qui sont les églises du Christ. Si une église enseigne le sabbat, mais qu'elle n'enseigne pas les fêtes, est-ce que ça peut être une église du Christ, alors que le Christ a observé les fêtes? Même chose, on pourrait prendre plusieurs exemples concernant tout ça. Il y a des églises qui disent que les commandements sont abolis, il s'agit simplement de s'aimer les uns les autres, comme j'ai mentionné tantôt, sans définir ce que c'est l'amour véritable. Ça commence par aimer Dieu, puis ensuite aimer notre prochain, mais ça se traduit dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements concernent l'amour envers Dieu et les 6 derniers, l'amour envers le prochain. Ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas mentir. Au contraire, donner, être généreux au lieu de voler, au lieu de mentir, dire la vérité concernant les gens, la vérité qui est bonne à dire pour encourager. Voyez-vous, ça c'est la voie chrétienne que le Christ nous a montrée. La vérité biblique, elle a été attaquée dans le passé et elle va l'être encore plus. Dans l'avenir. Elle va l'être encore plus à l'avenir. Parce qu'il y aura une pression de mise contre la vérité. Les gens ne veulent pas l'apprendre. Ils ne veulent pas le savoir. La preuve, c'est que si vous avez, dans le passé, essayé de convaincre certaines personnes, vous vous êtes fait des ennemis. Il y a des gens même qui vous ont trouvé bizarre. Et je les comprends. Si j'avais été à leur place, je vous aurais trouvé bizarre. Et je me mets à la place de ceux à qui j'ai parlé quand je suis arrivé à l'Église et qui m'ont trouvé bizarre. Je les comprends. Et je les respecte. Ces gens-là étaient sincères. Ils ne comprenaient pas. Mais quand on comprend, on a une chose à faire. Est-ce que je mets en pratique, moi, ce que Dieu me dit de mettre en pratique? C'est pour ça que le Christ a dit dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous parlez de moi, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous ne m'appartenez pas. » Pour être solide et pour résister, il faut que les élus aient une foi ferme. Maintenant, comment peut-on venir à l'Église de Dieu? Je pense que c'est important que je fasse cette petite nuance-là ici. Comment est-ce que ça se passe quand on vient à l'Église de Dieu? J'en ai glissé un mot tantôt. C'est d'abord le gouverneur de l'univers qui prend une décision de vous appeler vous. C'est lui qui prend la décision. C'est pas le Christ. C'est le Père qui prend la décision. Et on a vu tantôt dans Jean 6, 44, qui attire la personne au Christ, qui lui fait réaliser que le Christ a été une personne réelle, qui a enseigné, qui a fait des choses. On veut connaître davantage, on va vers lui, on va vers la Bible et on apprend des choses. Alors, Dieu appelle et il attire au Christ. Et encore là, la Bible nous dit, c'est pas tout le monde qui sont appelés, malgré qu'il y a beaucoup d'appelés, un grand nombre d'appelés, mais peu d'élus. Là, je fais une différence. Il y a une différence entre les appelés et les élus. Les appelés, c'est ceux que Dieu attire au Christ, mais on reste des êtres humains libres. Alors, ceux que Dieu attire au Christ peuvent voir qu'est-ce qu'il y a à faire, mais à un moment donné, ils trouvent ça trop difficile ou ça leur convient pas ou ils veulent le faire plus tard ou, et ils ne viennent pas. Ils ont été appelés, mais ils n'ont pas été élus. Élus, ça veut dire choisi. Comme quelqu'un, durant les élections, par exemple, qui est élu pour aller siéger au Parlement, il est désigné, il est choisi par les électeurs pour aller les représenter au Parlement. C'est la même chose en ce qui concerne ce dont je vous parle. Le Père attire quelqu'un au Christ, et c'est le Christ qui choisit parmi tous les appelés qui il choisit, qui deviennent les élus. Qui parmi les appelés, autrement dit, a son cœur pour obéir à Dieu. Donc, le Christ dit à ce moment-là, avec lui ou avec elle, je peux travailler. Parce qu'elle a ce qu'il faut pour, avec mon esprit, être capable d'avancer et d'arriver au but, ne pas perdre son salut. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est bon qu'on le sache, c'est bon qu'on le voit vraiment clairement. Un élu, c'est un choisi parmi ceux qui sont appelés. Et le Christ choisit ceux qu'il choisit et il travaille avec eux. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. C'est important que je vous prouve ça. Lorsqu'on prêche, on doit expliquer la parole de Dieu clairement et s'appuyer sur, justement, la Bible, sur ce qui est sa parole. Jean, chapitre 15, et le verset 14 à 16. « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » On revient encore à ça. Il dit, « Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? » Il a reproché ça à ceux qui n'observaient pas les lois. Mais il dit ici, « Vous êtes mes amis, vous autres, le petit troupeau, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et regardez le verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Là, ça donne un coup les premières fois qu'on voit ça. On est à l'église et on dit, « Ah, moi, j'ai choisi le Christ. J'ai donné ma vie. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est le Christ qui vous a choisi. Après que le Père a ouvert votre esprit un peu à la compréhension de certaines choses du mystère caché. Aussi simple que ça. Le Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Pensez-vous pas meilleur parce que vous m'avez choisi. Vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi parmi ceux que mon Père avait appelés. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que vous viviez selon mes voies, selon mes lois, que vous aimiez Dieu de tout cœur et que vous aimiez les autres comme vous-même, en les servant, en ne mentant pas, en ne volant pas, en ne commettant pas l'adultère, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oui, parce que Dieu répond à ceux qui cherchent à faire sa volonté. Il répond à nos prières quand on cherche à faire sa volonté. Formidable! Alors, voyez-vous, ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce que Dieu nous montre, à mesure qu'il nous montre de le faire. Et qu'arrive-t-il aux appelés qui ne bougent pas? Certains nombres d'appelés qui ne bougent pas, qui ne répondent pas à l'appel et qui ne mettent pas en pratique les choses que Dieu leur montre. Ils demeurent tout simplement dans le même état que les non-convertis, que ceux qui sont sous le mystère, qui ne comprennent pas, qui retournent à leur petite vie quotidienne, pensant peut-être connaître Dieu, pensant peut-être lui faire plaisir en faisant un certain nombre de petites choses que les êtres humains disent de faire. Leur esprit, dans le fond, je dis ça autrement, leur esprit reste voilé au mystère, ils ne voient pas, ne comprennent pas les choses de Dieu, jusqu'au retour du Christ. Parce que Dieu ne les abandonne pas pour autant, mais ils ont fait le choix pour l'instant, et c'est dommage parce qu'ils se privent de beaucoup de choses s'ils ne prennent pas l'offre que Dieu leur donne maintenant. Ils se privent de beaucoup de choses et ils vont devoir passer par des choses plus difficiles. Mais Dieu ne les rejette pas pour autant. Dieu va leur donner leur chance après le retour du Christ, quand Dieu va appeler l'ensemble des survivants sur la terre après la Troisième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que Dieu va ouvrir l'esprit de tous les êtres humains, qu'il va enlever le mystère, si vous voulez. Il va leur donner de comprendre, il va leur donner à ce moment-là de pouvoir choisir. Et ce que je peux vous dire, et vous pouvez en tirer conclusion vous-même, c'est qu'après les horreurs de la grande détresse qui approche, les 3 ans et demi de grande souffrance de l'humanité, et après la Troisième Guerre mondiale, les survivants de ça, il s'agit de regarder les films des 2 dernières guerres mondiales et ce qui arrivait après et tout ça, ceux qui seront les survivants de ça vont demander pour comprendre comment vivre heureux et comment ne plus avoir à revivre de choses aussi horribles. Ils vont être disposés à suivre les directives de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Allez dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. C'est tellement encourageant quand on voit le plan de Dieu, de quelle façon Dieu est un Dieu juste. Il va donner à chacun une chance réelle de le connaître et de choisir de vivre selon ses voies, d'avoir accès à l'arbre de vie et de pouvoir un jour avoir la vie éternelle. Ésaïe chapitre 2, on va lire le verset 1 à 5. Il parle ici du retour de Christ, ce qui va arriver immédiatement après. Verset 2, Ésaïe 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel » La montagne de la maison de l'Éternel, ça c'est le gouvernement de Dieu. Vous pourrez aller voir pour le prouver dans Daniel 2, verset 35, où il dit clairement qu'une montagne, c'est un gouvernement. Alors, il dit ici que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, le gouvernement de Dieu va recouvrir tous les gouvernements de la terre. La montagne de l'Éternel va couvrir toutes les montagnes de la terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et regardez bien. Et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations vont aller vers cette montagne, c'est-à-dire vers ce gouvernement qui va être dirigé par le Christ lui-même établi à Jérusalem. Et il a dit à plusieurs endroits que c'est là exactement qu'il va revenir. Verset 3, regardez, quand je vous ai dit qu'à ce moment-là, les gens vont chercher à connaître Dieu, le mystère va être enlevé et ils vont désirer apprendre. Des peuples s'y rendront en foule, pas quelques personnes. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Montons au siège central du gouvernement de Dieu, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Voyez-vous, ils vont vouloir apprendre. Ils vont vouloir être heureux. Ils vont dire, « Je veux vivre en paix. Je veux enfin connaître une vie heureuse, une vie paisible, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Ils seront disposés à suivre Dieu. Car de Sion, de Jérusalem, sortira la loi. Pourquoi? Parce que le grand législateur, le Christ, sera à Jérusalem, ce sera son quartier général. De Jérusalem va sortir la loi. Et c'est à partir de là que nous allons enseigner les nations physiques. La même chose que je vous enseigne aujourd'hui. On leur expliquera l'histoire. On leur expliquera ce qui est arrivé. On leur expliquera ce qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Qu'est-ce qu'il va faire pour eux? Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la parole de l'Éternel. Elle sera enseignée à partir de Jérusalem, ce qu'il y a dans la Bible ici. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances, des serpes. On utilise souvent ce verset-là dans nos émissions de télévision pour montrer que dans le monde de demain, quand le Christ sera revenu, tous les armes de guerre seront fondues pour en faire des outils d'agriculture, pour produire des choses et non plus pour tuer. C'est ce qu'on voit dans d'autres passages de la Bible. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Il n'y aura plus d'école militaire. Il n'y aura plus d'armée. Je vous parle d'un monde nouveau. Je vous parle d'un monde complètement différent. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Le résultat, ce sera un monde entièrement nouveau, formidable. Ésaïe 11, allons juste un peu plus loin, où il est question encore du monde de demain, après le retour de Christ, qui est le Dieu de sagesse. Ésaïe 11, on va commencer à lire au verset 1, et je vais vous amener à voir que la connaissance de l'Éternel va remplir toute la terre à ce moment-là. Graduellement, en commençant par Jérusalem, les nations vont demander pour être enseignées. Nous allons leur enseigner sous le Christ pour les aider. Ésaïe 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » Ici, il annonce la naissance du Christ. « Et un rejeton naîtra de ses racines. » L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Christ a toujours respecté son Père parfaitement. Il n'a jamais péché, il n'a jamais transgressé les lois de Dieu. Et regardez verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel, le respect de son Père. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Ça va être tellement bon. Il y a tellement d'injustice aujourd'hui. Ces choses-là sont choses du passé, parce que le Christ va trancher pour qu'il y ait justice. Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Celui qui ne voudra pas changer, qui ne voudra pas arrêter de faire mal aux autres, il dit, il va le détruire tout simplement. Il ne le laissera pas continuer à faire du mal aux autres. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Et regardez comment les choses vont être belles dans la nature. Ça fait rêver. Le loup habitera avec l'agneau. La nature des animaux sera changée. Il y aura une paix dans le règne animal. Il n'y aura plus d'animaux qui se dévorent entre eux. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Tout sera changé. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira sans danger. La vache et l'ours auront un même pâturage et leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Voyez-vous? Donc, il ne mangera plus de viande. Il va se nourrir d'herbe, comme les bovins, comme les vaches, comme les agneaux, et ainsi de suite. Le nourrisson, le petit bébé, s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, qui est un serpent dangereux, mais à ce moment-là, il n'aura plus de danger. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dans tous les lieux où son gouvernement sera établi. Car la terre, regardez bien, c'est à ça que je veux arriver, car la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, parce que le mystère persiste sur l'ensemble de l'humanité, le mystère caché de tout temps par Dieu et révélé par le Christ maintenant à ses serviteurs et qui sera révélé après son retour à l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dit ici, « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer » par les eaux qui le couvrent. Extraordinaire. Voyez-vous la richesse de l'appel que nous avons, de ce que Dieu nous révèle pour le temps que nous vivons, pour les temps difficiles qui approchent et pour le temps merveilleux qui va arriver après le retour de Christ, quand toutes choses seront changées. Et au retour du Christ, les appelés qui auront été choisis parce qu'ils auront décidé de vivre selon les lois de Dieu, mais non seulement qui auront été choisis, les élus, mais qui auront persévéré dans la façon de faire, ceux-là vont être avec le Christ pour mettre un terme à la Troisième Guerre mondiale. Et on voit ça très clairement dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Tout se tient de façon extraordinaire dans la Bible. Apocalypse chapitre 17, on va lire les versets 12 à 14. Et ici, il parle des 10 rois ou des 10 groupes de nations qui vont bientôt donner leur autorité à l'Europe unie et au chef de l'Europe, le dictateur qui va apparaître. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, 10 nations ou 10 groupes de nations qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc, pendant une courte période avec la bête. Et regardez, ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et on va voir ces pays-là d'Europe donner leur puissance, leur autorité, la force de leur armée, leur économie à un pouvoir central qui, lui, va être une autre résurgence de l'Empire romain et qui va faire des dégâts épouvantables. Et regardez, ces gens-là, l'Europe unie avec son armée puissante, ils combattront contre l'agneau. Pourquoi? Parce que ce sera le moment où le Christ va revenir sur la terre. Mais le mystère n'est pas encore levé. Et les gens vont penser que c'est un extraterrestre qui vient les attaquer. Et ils ne veulent pas accepter non plus de voir autre chose que ce qu'eux pensent. Et ils vont s'en prendre au Christ qui va s'en venir de façon glorieuse. Ils combattront contre l'agneau. et l'agneau les vaincra. N'oubliez pas, l'agneau, c'est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et regardez qui l'accompagne à ce moment-là. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ceux qui ont été appelés, ceux qui ont commencé à vivre selon Dieu, qui ont été choisis par le Christ, et ceux qui ont été choisis par le Christ et qui ont persévéré jusqu'à la fin, malgré les difficultés, persévéré à vivre selon ses lois, seront avec le Christ pour mettre un terme à la Troisième Guerre mondiale et établir enfin un gouvernement de paix sur la terre. Regardez la vision de l'apôtre Jean sur le rôle prochain de ses fidèles serviteurs de Dieu. Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, un superbe passage. Ici, c'est une vision que Dieu a donnée à l'apôtre Jean et qu'il lui a demandé d'écrire. Et ça montre ce qui va arriver au temps de la fin. Lorsque le Christ sera revenu, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont les fidèles serviteurs de Dieu? Quand il eut pris le livre, c'est dans sa vision, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils voient cette scène au ciel, dans le ciel, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre. » Il s'adresse au Christ ici. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé, c'est le Christ qui a été immolé, l'agneau de Dieu, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et aujourd'hui, la petite Église est appelée dans la Bible l'Israël spirituel. Et ce n'est pas seulement des Israélites, ce n'est pas seulement des Juifs ou des Lévites ou des autres nations descendants d'Israël, mais ce sont des gens de toutes les nations de la terre qui font partie du troupeau de Dieu. Pourquoi? C'est simple. Parce que Dieu prépare une équipe pour enseigner aux survivants de la Troisième Guerre mondiale, aux gens qui vont être là. Donc, ça prend des gens de toutes les cultures, de toutes les expériences de vie en même temps aussi. Et dit... Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et regardez, tu as fait d'eux un royaume, un gouvernement, un roi avec un territoire, des lois et ainsi de suite. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants, pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre, parce que le Christ va régner à partir de Jérusalem. Et notre rôle, si nous sommes fidèles, ça va être de l'aider à guérir les nations, à les nourrir, à leur enseigner vraiment la vérité. Et dans la Bible, ceux qu'on appelle les saints, ce sont ceux qui sont appelés, ce sont ceux qui sont élus, ce sont ceux qui persévèrent dans la fidélité. Et à cause de ça, Dieu les considère comme à part. C'est son petit troupeau auquel il va accorder la vie éternelle et auquel il va donner des responsabilités glorieuses dans le monde à venir. Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3. Quand on met tous ces versets-là ensemble, on voit davantage la grandeur du plan de Dieu et à quel point c'est encourageant. Et quel est le rôle qui nous est réservé et quelles sont nos responsabilités actuelles. Philippiens chapitre 3 et le verset 20 et 21. Mais nous, membres de l'Église, ceux qui sont mis à part, ceux qui travaillent fidèlement à rester les élus de Dieu, mais nous sommes citoyens des cieux. Pourquoi? Parce que notre citoyenneté, elle est inscrite dans le ciel. Les noms de ceux qui sont baptisés dans l'Église de Dieu sont inscrits dans le livre de vie de Dieu. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons, aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, notre faible corps physique, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et au moment du retour de Christ, ceux qui seront fidèles seront transformés en êtres spirituels pour faire partie de la famille de Dieu. Ils deviendront les petits frères et les petites sœurs de Christ de même nature que lui. Formidable. Voilà certains aspects du plan de Dieu. J'ai voulu vous montrer aujourd'hui à quel point l'appel est précieux. C'est un appel qui est d'un prix énorme. Il faut le considérer comme tel. Il faut agir en conséquence. On n'est pas parfait, mais on demande son aide pour être capable d'y arriver. pour persévérer, pour être fidèle, pour développer le caractère divin, pour mettre en pratique ses lois, ses sabbats, ses fêtes, et ainsi de suite. Vous savez, la fin de l'histoire des fidèles serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés maintenant, c'est une fin heureuse et c'est une fin glorieuse. On passe par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés maintenant, mais le but n'est pas loin. Il faut garder nos yeux sur le Christ, celui qui donne la foi et l'amène à la perfection. Et c'est ce que j'ai besoin, la foi du Christ, non pas ma foi, la foi du Christ, pour être capable de tenir. La fin, elle est glorieuse, elle est heureuse. L'appel de Dieu est précieux, plus que tout.